sur Révolution Sound Record.
Oui, à condition que je leur dise où se trouvent les podcasts. Mais ça sera fait dans peu de temps,
dans
parce
peu
que
temps.
Maintenant...
On a un système tout, presque tout automatique. Donc, vous êtes avec nous pour à peu près une heure, j'ai dit à peu près, puisque nous ne diffusons pour l'instant plus sur Oxy Radio. On est en train de renouveler les partenariats, tout ça, et de préparer des choses un peu plus sympas pour, avec eux. Mais en attendant, on ne peut pas y mettre chez eux, donc on peut déborder maintenant. On n'a pas d'horaire.
Ah oui, débordons.
Débordons. On peut même commencer en retard sans vouloir, quoi. C'est ça qui est génial. Donc, nous sommes ensemble pour... une heure autour des
comme d'hab quoi.
Voilà. Des cultures libres, logiciels libres, musique libre et tout ça. On est aussi là pour troller du propriétaire, mais pas que, quand même.
Il y en a qui vont troller du libre aussi.
Voilà, vous trollez du libre. Non, mais on a un spécialiste ici. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? Ben, premièrement, de notre radio, n'importe quoi, de notre Girol Party automne 2013, où il y aura forcément notre grande radio où on émet pendant à peu près 6 heures. Avec peut-être un concert, mais ça, Isa nous le dira tout à l'heure. Nous allons ensuite parler de Steambox, SteamOS et toute l'actualité autour du jeu vidéo sous Linux, parce que vous savez que chez Girol, nous sommes pour la plupart des gamers et nous aimons jouer sous Linux. Et nous allons aussi parler de UX et projets open source. Ça va être le gros sujet à troll.
Apparemment, c'est pas du troll, hein.
C'est du bashing.
Le but, c'est d'améliorer les choses, pas de troller.
Mais ça s'améliore. On y reviendra tout à l'heure. Et nous allons ensuite parler de Hacking Party 10.0. Alors ça, c'est
un événement prochainement à venir sur Bordeaux.
Sur Bordeaux, oui, parce que rappelons à nos auditeurs que nous sommes, pour ceux qui nous écoutent en direct, donc en direct de Bordeaux, du Centre d'Animation Saint-Pierre. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont envie de venir nous rejoindre, vous pouvez. Nous sommes aux 4 rue du Mulet, qui est juste derrière le cinéma Utopia, qui est aussi un repère un peu là-bas de trucs libres. On en parlera peut-être juste à la fin de cette radio. Donc, je vous propose une petite pause musicale pour commencer. Et ensuite, ouais, pour bien découper, comme l'a dit Antoine.
Ouais, faut découper.
Découper. Et ensuite, on abordera notre premier sujet, la Girol Party automne 2013. Et croyez-moi, là, ça va envoyer du lourd. Ubuntu Party à Bordeaux, ça s'appelle donc Girol Party pour la deuxième ou troisième fois, je crois. Et on a réservé un petit programme assez sympa. Donc ça se passera samedi 23 novembre, toujours à partir de 9h, 9h30, pardon. Jusqu'à pas d'heure, hein. Enfin en général jusqu'à minuit ou entre minuit et 1h du matin. On va peut-être demander à Thomas de venir nous en parler un petit peu. Ah non, Thomas est occupé.
Thomas nous écoute pas. Ouais. Thomas. Il faut lui parler de poney. Poney et pomme.
Pomme. Pomme, poney.
Allez, viens par ici. Prends-toi une chaise. Alors, comme d'habitude, en fait, nos Girol parties vont se passer au Centre d'Animation Saint-Pierre. Il va y avoir toute la journée des ateliers, des conférences, des discussions endiablées, voilà, des trucs à boire sympas, des trucs à manger, boire sans alcool, hein, précisons quand même. Et le soir, à partir de 19h, il y aura la traditionnelle radio Girol de 19h à minuit, 1h du matin, avec peut-être, espérons-le, en concert, si on arrive à trouver des musiciens libres disponibles pour l'occasion.
Pour l'instant, j'ai pas de réponse.
Mais on y travaille.
C'est ça.
C'est ça, voilà. Donc Isa en charge des concerts chez Girol. Et voilà. Et cette année, en fait, on a deux architectes principaux de ces Girol parties. Édouard, qui est très occupé, qu'on ne va pas déranger. Hein, sinon, il va encore se faire troller, bâcher sur Google Maps. Et nous avons Thomas, que nos auditeurs réguliers connaissent. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir à tous.
Tu peux t'approcher du micro, parce que sinon, on ne va pas beaucoup t'entendre. Et,
C'est marrant, en fait, on est 5 et il y a 4 micros. Alors... je suis obligé vraiment d'être proche.
Ah, Isa va prêter son micro.
C'est super sympa ça.
Alors, on va commencer. En fait, on va pas évoquer vraiment le programme complet de la Girol Party. On laisse les gens aller directement sur www.girol.org. Il y a un article sur notre site dédié à ça avec le programme complet. On va plutôt commencer par parler déjà des invités parce que pour la deuxième fois, nous allons avoir des invités à Girol. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors peut-être déjà rapidement voir le programme, expliquer un peu que les ateliers se découpent par en une heure chaque atelier. Et on a quelques invités, notamment par exemple, je vous lis ça un peu en vrac, un sujet sur pourquoi et comment libérer votre ordinateur. Là, on a, alors je vous lis un peu le descriptif, c'est présentation sur les distributions GNU Linux 100% libre, les programmes liés au logiciel propriétaire et ceux liés au matériel. Avec le développeur du projet, la personne s'appelle Nutu, mais c'est son pseudo. Il me semble que c'est par rapport à Corbout. Voilà, exactement. J'ai pas sous les yeux, mais
donc Corbout, c'est tout un ensemble. Voilà, tout un ensemble de programmes qui servent à remplacer le BIOS qui est de nos ordinateurs, qui, rappelons à nos auditeurs, permet de démarrer la machine sur le système d'exploitation avant, voilà. Et pour l'instant, tout ça, c'est propriétaire. Donc, Corbout vise à remplacer ça par du logiciel libre.
Voilà. Et on a le développeur du projet qui est là. Donc, ça peut être intéressant de venir, ne serait-ce que d'avoir la personne déjà appropriée pour en parler.
Donc, voilà. Donc, c'est quand même là, on parle d'un atelier quand même qui s'adresse à des gens qui ont un certain niveau en informatique, qui sont impliqués dans le pôle Kosiakowski, donc qui est développeur projet Réplicant, qu'est-ce que c'est?
Alors Réplicant, c'est d'avoir un Android complètement libre.
Rappelons-le.
Un système de notation mobile qui a été racheté par Google avec un principal d'Android. Sur Android, tout ce qui est driver matériel pour gérer le Wi-Fi, pour gérer la 3G, etc. sur le téléphone, ce sont des drivers qui sont propriétaires. Là, le but, c'est d'avoir un téléphone 100% libre. Donc les drivers sont libres, etc. Enfin, l'ensemble du téléphone.
Donc pareil, une conférence qui s'adresse là, enfin un invité qui va nous parler d'un sujet.
Je dirais l'ensemble, pas tout à fait, il reste le matériel quand même.
Oui, c'est un problème. Après, je ne pourrais pas en parler. Enfin, il faut venir à 15h le 23 pour avoir beaucoup plus de détails sur le projet.
Donc voilà, on va aussi avoir Sébastien Moratino qui est déjà venu chez Girol pour nous proposer un atelier sur GNU.net. Voilà, un atelier auquel vous avez assisté. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Je trouvais ça très intéressant. Je suis content qu'il revienne nous faire une présentation un peu plus pratique cette fois-ci. Parce que GNU.net, c'est un projet qui est encore un peu expérimental. C'est un framework de peer-to-peer qui est extrêmement sécurisé. Et normalement, il nous a promis que pour la seule partie, ça serait fonctionnel. Et qu'il nous présenterait aussi le projet sur lequel il travaille, qui est une interface web pour GNU.net.
D'accord, donc pareil, plutôt des invités plutôt pointus dans leur domaine, qui s'adressent avant tout à un public d'initiés ou de gens, un public qui est, je dirais, averti, mais pas dans le sens...
spécialiste du domaine, mais voilà. Il faut avoir quelques connaissances pour pouvoir comprendre.
Exactement, on ne proposera pas que ça, on va y venir après. Nous avons aussi un autre invité, en fait un collectif que nous aimons beaucoup ici chez Girol et on espère pouvoir élargir le partenariat pour pourquoi pas vous proposer une radio un jour directement chez des grands co. Maintenant, c'est le Labix qui va nous poser Do It Yourself, fabriquer son image de vélo. Voilà, pour un tout petit budget d'à peu près 1 euro, vous fabriquez votre petite lampe pour accrocher à votre vélo et pouvoir rouler tranquillement la nuit, et le tout avec du matériel de récupération, bien sûr.
Et le but de cet atelier, c'est de comprendre les principes généraux de l'électronique avec un montage très simple qui peut être réalisé par tout le monde.
Donc là, un atelier qui s'adresse à tout un chacun, toute personne intéressée, bien sûr, vous venez. Alors le programme, on ne va pas détailler les heures, hein, on n'est pas là pour ça sur la radio. Toujours www.girol.org, vous allez trouver l'atelier sur l'article qui présente cette Girol partie d'automne 2013. Voilà. Mais on a parlé des invités, on peut parler aussi des gens de chez Girol qui ont proposé tout un tas d'ateliers. Alors on ne va peut-être pas tous les évoquer, mais on va avoir...
Par exemple ton atelier,
ou le tien, Thomas. donc toi plutôt la photo, donc gérer les photos avec Digicam qui est un gestionnaire catalogue de photos.
Voilà, catalogueur de... trieur, tagueur de photos aussi.
Voilà, en géolocaliseur aussi, voilà, tout ça. Et Darktable qu'on utilise aussi, que beaucoup de gens utilisent à Girol, n'est-ce pas Gaël? Oui, il fait oui de la tête, je transmets quand même. Donc voilà, tu vas nous présenter tout ça. Donc c'est des logiciels que toi de toute façon tu utilises...
Exactement, c'est des choses que j'utilise quasiment au quotidien, des outils que je maîtrise plutôt bien et je me dis que c'est l'occasion d'en faire partager mes connaissances à d'autres personnes. Sachant que cet atelier, il se démarque des autres ateliers parce que c'est pas un atelier trop technique, il y aura des parties un peu techniques, mais il n'y a pas de code, il n'y a pas de ligne de commande, donc quelqu'un qui a des connaissances modestes en photo peut suivre l'atelier sans problème.
C'est pas parce que c'est pas technique que c'est pas compliqué. Ça dépasse largement mes compétences. Quoi. Je serais très intéressé de voir l'atelier sur Darktable et tout ça parce que je connais rien du tout et je voudrais un peu apprendre à m'en servir.
D'ailleurs, tant que tu es là, Mathieu, toi, tu as aussi un atelier, mais c'est pour les Superman du développement de Django.
C'est pour devenir un super héros. Ouais. Donc partir, avoir un niveau ou non en Python ou en Django. Et préparer le terrain, préparer les outils pour se faciliter la vie et développer sans avoir de problème, enfin, trouver les super pouvoirs pour développer.
Donc, rappelons à nos auditeurs, Python, c'est un langage de programmation plutôt, on ne peut pas dire vraiment scripté, mais plus interprété, voilà. Et Django étant un framework.
Un framework pour les faire les sites Internet.
Voilà, et qui est écrit en Python.
En Python.
Voilà,
et en plus, peut-être qu'il y aura des poneys dans cet atelier.
Il y aura des poneys, mais pas que. Il y aura aussi beaucoup d'autres choses.
Peut-être la saucisse de cheval aussi, à faire griller.
Je ne réagis pas.
Nous avons aussi un atelier que l'on inaugure cette année. On n'en a jamais fait, on espère. C'est un atelier qui va toucher les plus petits d'entre vous, si tant est qu'il y ait des enfants qui nous écoutent à Radio Girol. C'est tout public en même temps, hein, Radio Girol. C'est le coding goûté. Donc là, qu'est-ce que c'est le coding goûté? On pourrait dire la programmation expliquée aux enfants. Tu vas en parler aussi parce que tu...
Voilà, alors je vais animer cet atelier avec Edouard qui discute.
Et Gaël.
Et avec Gaël qui n'est pas au micro. Et le principe du coding goûté, je vous explique là rapidement. Le principe du coding goûté, c'est sur 2-3 heures, apprendre la programmation aux enfants de manière ludique, sans forcément faire de code, tout en mêlant un goûter. Alors, les enfants au milieu, ils peuvent manger des gâteaux, etc., qu'ils ont ramenés, qu'on a ramenés. Toujours en restant dans quelque chose d'agréable à faire, quelque chose de visuel et pas technique,
c'est
pas
très ludique. D'écriture.
Voilà, exactement.
Bon, un bon petit truc avec en plus, en prime, les gens qui viennent apportent un petit gâteau, quelque chose à partager
pour
faire goûter, en fait, que tout le monde goûte ensemble une fois.
Alors, il y a le formulaire qui est sur le site, qui est d'ailleurs, le lien est rappelé dans le programme, pour vous inscrire. Donc, si vous, vos enfants, ou ça dépend qui écoute, enfants ou parents qui veulent inscrire son enfant qui est motivé, il y a le formulaire qui est sur le site de Girol. Faut s'inscrire au préalable pour qu'on puisse nous savoir qui vient, et on a assez limité à 8 places.
Voilà, c'est ce que j'allais dire justement, les places sont rares, n'hésitez pas à vous inscrire. Est-ce qu'il y a déjà des inscrits d'ailleurs?
Il me semble qu'il y a des inscrits, il faudrait demander à Edouard qui a le chiffre exact, je ne sais plus.
Bon, mais tout à l'heure quand on parlera de UX, peut-être qu'on arrivera à le réveiller, à le sortir de sa exactement. Discussion. Voilà, il y aura aussi protéger sa vie privée, donc Grégory qui est un nouveau venu, qui va nous parler de comment protéger sa vie privée avec des outils libres comme John, PGP, GPG et OpenSSL, tout ça. On va avoir la présentation de FF Diaporama, donc un outil pour faire des diaporamas de photos sous forme de films que l'on pourrait
utiliser. Un atelier plus grand public, on va dire.
Voilà, on aura la résurrection de partie, la sticker partie. Moi-même, j'animerai un atelier relativement simple pour survoler un petit peu Synfig, un logiciel d'animation 2D qui permet d'animer normalement du vectoriel, mais on peut aussi animer des images bitmap. Voilà, surtout pour faire du dessin animé, mais vous allez voir surtout pas que ça. Donc voilà, une sticker partie pour pouvoir s'échanger les stickers à coller sur son ordinateur et en faire une bête de course, un peu comme les voitures de NASCAR.
Donc là, si vous avez des stickers et que vous venez à la Girol Party, amenez-les, quoi. C'est l'occasion de les échanger, d'en faire partager, de récupérer d'autres stickers.
J'ai des stickers de groupe de métal, ça marche?
Ouais, ça marche aussi. Okay, si c'est de la musique libre, on va... Donc voilà, en fait, donc on rappelle les dates, c'est le samedi 23 novembre à partir de 9h30. Les gens qui s'élèveront le plus tôt et qui viendront dès 9h30 auront droit à un café et des madeleines, voilà, comme d'habitude, comme on sait bien les faire avec Girol. Il y aura un bar à disposition, on essaie de voir pour pouvoir éventuellement proposer de la nourriture à vendre, pas trop cher, bien sûr.
Si tout se passe bien, peut-être qu'on aura des gâteaux à vendre au profit de Girol.
Voilà, on va pour la deuxième fois, proposer une boîte à pourboire Girol. C'est une boîte dans laquelle, si vous avez trouvé ce qu'on fait est bien, vous laissez un petit peu de monnaie et nous, ça nous permet d'acheter du matériel pour pouvoir améliorer nos ateliers au quotidien.
Il y aura un t-shirt à vendre aussi.
Il y aura un t-shirt. Il y aura deux t-shirts Girol à vendre. Mais si tu parles pas dans le micro, on t'entend pas.
Un homme, une femme.
Ah, tu vendras un homme et une femme. c'est génial. Voilà. Bon, ben on vous donne rendez-vous donc le samedi 23 avec toute l'équipe de Girol. On sera au complet, non? En plus, je pense. Il y aura tout le monde.
Ouais, je pense qu'il y aura quasiment tout le monde. Comme souvent aux install parties, il y a plus de gens que le mardi.
Donc voilà.
Girolien qui viennent de loin, qui viennent pas souvent.
Voilà, vous allez sur le site www.girol.org et vous avez toutes les infos pour venir nous voir donc ce samedi 23 novembre. Je vous propose maintenant une petite pause musicale parce qu'on a bien abordé le sujet et ensuite on va passer à notre. Justement, on va parler un petit peu après la pause de la sortie de Ubuntu 13.10 et on va revenir sur un petit fail là récent concernant Ubuntu, mais qui heureusement s'est très très bien terminé. Non, mais ça parle là en fait. Hein. On est de retour, donc toujours en direct du centre d'animation Saint-Pierre, ou pas en direct pour ceux qui nous écouteront plus tard dans le futur sur les podcasts de Révolution Ensemble.
Un peu avant les bêtas. Donc ça fait quelques temps que je suis dessus et finalement j'en suis très content. Je switch un peu entre les différents environnements du bureau. Et au final, en général, je reviens toujours sur Unity, sauf sur mon portable où j'ai un peu moins de puissance graphique. Donc je suis sur OpenBox. Mais au final, enfin, je pense que ça fonctionne très bien. Pas de grosses nouveautés, mis à part la recherche sur le dash de Unity, que j'utilise pas. Donc au final, bon, bah, pas grand chose de révolutionnaire, mais quelque chose qui fonctionne très bien.
Un peu plus stable que la 13.4 qui souffrait quand même de quelques problèmes de stabilité.
Ça doit être un peu plus stable, même si j'ai pas beaucoup de problèmes sur 13.4. Ouais, enfin je trouve ça très très stable, très très bien fini en tout cas.
Donc un bon cru.
Oui. Bon. Et j'espère que la LTS qui sortira juste après sera encore meilleure.
Donc ce sera la 14.4 qui s'annonce effectivement. Normalement, ils passeront directement, définitivement, à Mir, leur serveur d'affichage.
Alors ça, j'en suis pas persuadé, parce que vu qu'on n'a pas encore les drivers qui vont avec, du côté de chez Nvidia et AMD, je doute fortement qu'on passe à Mir. Bon. Mais bon, enfin, je pense qu'ils fourniront Mir pour certains chipsets graphiques.
Libres.
Voilà, les chipsets AMD open source et nouveaux, Intel. Mais pour toutes les autres cartes, ça sera du Xorg, à mon avis.
Alors justement, parler d'Ubuntu 13.10, ça va nous permettre de nous parler de la grosse affaire libre juridique en ce moment. C'est le fail canonical contre fixubuntu.com. Alors pour la petite histoire, en fait, vous avez un développeur, je crois que c'est un développeur, la personne à l'origine d'un petit site qui s'appelle fixubuntu.com, et ce site permettait en fait d'expliquer comment désactiver la recherche sur internet depuis le dash Ubuntu
en faisant des manipulations assez compliquées, sachant qu'il y a juste un bouton à cliquer normalement.
Voilà, alors toujours est-il qu'il préférait tout enlever ce qui servait justement à afficher la publicité depuis Amazon quand on faisait une recherche depuis le dash Ubuntu, depuis le bureau Ubuntu, plutôt que juste le désactiver. Et en fait, cette personne a reçu une lettre, une missive de Canonical en lui expliquant qu'il avait utilisé.
Doucement sur les téléchargements, merci. Là, ça ne sert à rien de parler dans le vide. C'est revenu.
Ah.
Parler.
Ah, donc, on disait oui, il a expliqué effectivement comment tout supprimer, sauf qu'il a reçu une jolie missive d'Ubuntu en disant qu'il utilisait de manière illégale le trademark de Canonical, à savoir le logo Ubuntu et le nom Ubuntu. Et
dans le nom de domaine.
Ouais. Et dans le nom de domaine aussi, ouais. Et donc il demandait expressément à l'utilisateur de cesser cela, et sous couvert de la loi sur les marques déposées. Et bien évidemment, le blogueur, qui en plus faisait partie de l'Electronic Frontier Foundation, ne s'est pas laissé faire et a publié un post sur le blog qui a fait un peu traîner de poudre. Donc ça a défrayé un petit peu la chronique jusqu'à ce que Canonical s'excuse et que Mark Shuttleworth lui-même publie sur Google ses excuses. Effectivement, il a traité ça de façon d'un bug, tout simplement. Il a dit que c'était un bug et que la personne qui a envoyé la lettre n'avait pas à le faire. Et il s'est excusé auprès du blogueur en question. Donc c'était une petite parenthèse, l'anecdote assez sympathique de la semaine dernière. Non, tu n'as rien d'autre à rajouter ?
Non, je pense que c'est tout dit. Hein. Je pense que voilà, c'est un employé récent de Canonical qui a fait... envoyé un des modèles d'email tout fait déjà, le plus sévère, et au final voilà qui n'avait pas été envoyé. Et puis je pense que c'est une erreur de jugement là, et il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça pour dire que c'était pour mettre sous silence toutes les critiques sur Ubuntu, alors qu'en fait non, pas vraiment quoi. C'est plus une erreur humaine en fait.
Peut-être une erreur humaine de quelqu'un qui, n'étant pas vraiment au courant de des us et coutumes dans le monde du logiciel libre, que ce soit des entreprises ou des a justement voulu faire taire la critique, pensant que ça peut être un petit mix des deux, on va dire. On a voulu faire taire un employé a voulu faire taire la critique parce qu'il n'est pas très au courant de ce qui se pratique en général dans le monde du logiciel libre.
C'est-à-dire qu'il a voulu défendre la marque, en fait.
Voilà.
Ben oui, parce que ça, c'est les habitudes des gens qui sont spécialisés là-dedans et dont c'est le métier.
Sachant que des avocats ou des juristes spécialistes voilà. du libre, il n'y en a pas beaucoup. Non, on en voit quand même.
Ouais, furtif, alors.
Voilà, furtif. Non, j'ai vu sur le Planète Libre que quelqu'un qui est sur le Planète Libre a récemment été diplômé de droit pour prouver qu'il va exercer le métier d'avocat. Donc ça existe.
Hey
Donc il faut dire à Connie Nicole, c'est des gens comme ça qu'il faut engager. On fait la pub. Bon, et justement, cette petite anecdote, ça nous permet justement, tu le disais tout à l'heure en antenne, Mathieu, d'aborder justement le thème des trademarks dans le monde du logiciel libre. Donc, tu peux nous en toucher un petit peu deux mots.
Oui, certains projets qui sont entièrement libres, qui ont un nom, un logo déposé, et ça pose certains problèmes des fois, enfin certains désaccords. Par exemple, je pense surtout à Firefox, dont c'est le cas le plus connu, et Debian qui a refusé de fournir Firefox justement à cause de ça. Ils fournissent une version qui s'appelle IceWizzle, qui n'est rien d'autre que Firefox avec un logo et un nom différents. Il y a peut-être quelques patchs aussi en plus, mais voilà, c'est la principale différence. Et IceDove, ouais, c'est qui est un autre fork de Firefox. Après, oui, enfin, je trouve ça peut-être un peu dommage parce que sur Debian, c'est un des problèmes, c'est que j'arrive jamais à récupérer. Enfin, j'ai un peu de mal à récupérer la dernière version de Firefox. Je trouve que IceWizzle est pas vraiment mis à jour. Enfin, comme beaucoup de paquets Debian, on va dire. Mais bon. Du coup, je me retrouve avec ça, les Firefox sur Debian. Quoi. Ouais, mais sinon, enfin, je ne sais pas si ça apporte. Enfin, s'il y avait vraiment une raison derrière ça de faire un fork de Firefox, si le fait de ne pas le faire aurait eu des conséquences, en fait, je pense pas.
Après, on connaît tous la propension de Debian à essayer de rester le plus libre possible.
Oui, voilà. Plus indépendant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de fermeture de code ni rien, c'est juste
une marque déposée.
Voilà. C'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler sur les logiciels libres. Pourtant, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns des projets qui contiennent une marque déposée.
C'est aussi peut-être aussi une manière de se protéger contre justement l'abus, parce que si Firefox est entièrement libre, quand il a commencé à jouir d'une certaine notoriété, n'importe qui aurait pu utiliser la marque Firefox ou même la déposer à l'insu de Mozilla pour demander ensuite à Mozilla de payer.
Non, mais je trouve ça très bien qu'ils aient justement déposé leur marque. Mais je pense
que c'est justement à cause de ça qu'ils l'ont fait, comme la plupart dans les projets libres, qui le font, qui ont une marque.
Est-ce que Debian est une marque déposée? Ça serait
C'est une bonne question.
Ah bon, je suis presque certain.
D'accord. Donc vous entendez Sam qui vient à Radio Girol pour la première fois, mais pas Girol pour la première fois. Donc non. Bonsoir Sam.
Bonsoir.
En effet, c'est une marque déposée.
Oui, donc tout le monde le fait, si je comprends bien, tout le monde le fait. Voire...
Mais du coup, c'est vraiment assez marrant parce que Debian, qui est une marque déposée, refuse.
Il n'y avait pas que ça pour Firefox. D'accord. Il y avait d'autres problèmes qui ont été résolus entre temps et ils ne sont pas revenus à Firefox. Il y avait des bouts de Firefox qui faisaient appel à un bug tracker qui n'était pas libre. Il y avait un problème à la base de liberté du code. Qui n'a pas perduré, mais au final, ils ont toujours gardé le fork.
D'accord. Donc, mais c'est Debian en même temps. Peut-être dans 3 ans, ils seront revenus à Firefox parce que les problèmes ont été résolus.
Mais ça fait un moment que le problème est résolu chez Firefox. Et,
non, mais je crois que c'est toujours une question de distribution de l'image. Les icônes et les noms,
ouais.
Ils ne sont pas libres de droit de distribution.
Ah oui, d'accord, ok.
Oui, voilà, ils n'ont pas le droit de modifier quoi que ce soit sur les logos, donc... Enfin, c'est, à mon avis, le problème qui reste sur la distribution de Firefox Debian, c'est ça, c'est un problème de marque.
Bon, merci en tout cas pour ce petit interlude sympathique sur les marques et tout ça, tout ça. On va faire une petite pause musicale et ensuite on reviendra. J'ai perdu le programme.
Tu vas le retrouver.
Je vais le retrouver, radio, ça y est, je l'ai. Non, on va parler de Steambox, SteamOS.
Ah, pardon. D'accord. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Il m'a fait le montage automatiquement.
Et vous voilà de retour sur Radio Girol pour ce deuxième épisode de la saison 3 de Radio Girol. Et oui, ça fait déjà 3 ans qu'on fait nos émissions mensuelles. Alors, cette fois-ci, on va aborder un sujet, vous savez, le sujet qu'on aime beaucoup à Girol, les sujets autour du jeu vidéo. On va vous parler de Steambox, SteamOS, parce que ça y est, depuis le mois dernier, Steam a annoncé tout ça. D'abord son SteamOS, en faisant languir les joueurs, et ensuite Steambox.
Steambox, qui est une console de jeu uniquement pour Steam.
Voilà.
C'est même plus qu'annoncé, ça commence à... Enfin, les prototypes commencent à sortir, à être montrés aux journalistes. Et je pense que les 300 qui ont été sélectionnés pour recevoir une Steambox en prototype, vont pas tarder à les recevoir.
Ouais, j'avais pas assez d'amis pour postuler, j'aurais dû faire une annonce sur Radio Girol. Devenez mes amis sur Steam, je veux tester la Steambox. Je pense que tu aurais voulu faire pareil, mais toi t'as assez d'amis.
Oui, largement, j'avais juste... le seul truc qui me manquait, c'était lancer un jeu en Steam...
En Big Picture.
En Big Picture.
Moi, ça y est, je l'avais fait en plus.
Oui, mais ça prend 2 minutes, quoi, mais c'est juste que je l'avais pas encore fait.
Moi, je l'ai fait depuis très longtemps.
Et c'est juste que, voilà, enfin... Ils sélectionnent de très près pour faire partie des 300 premiers sélectionnés. Je pense qu'il faut être quelqu'un de déjà assez connu dans le milieu du jeu vidéo sur Linux en tant que développeur ou testeur.
Ou joueur invétéré. Niveau 80 sur.
Joueur peut-être, ouais.
Niveau 80 sur Steam. Voilà. Alors. On va commencer peut-être à parler de SteamOS parce qu'ils ont fait pas mal d'annonces. Ils ont pas trop montré de choses, même si on peut laisser penser que ça sera la même interface que Steam, que la Big Picture.
Oui, ça sera l'interface Big Picture, qui est une interface qui est prévue pour le contrôle à la manette et être affichée sur une télé. D'ailleurs, dans les dernières mises à jour de Big Picture pour Steam Linux, on voit déjà des petits bouts de SteamOS qui arrivent. C'est pas officiel, il faut les activer. Ils sont un peu cachés, mais ils sont bien là. Donc ça commence à arriver.
Ils ont aussi annoncé que du coup, ça ne serait pas un système basé sur Ubuntu, même si effectivement ça a pris de court pas mal de gens qui pensaient effectivement qu'ils allaient s'appuyer sur Ubuntu, parce qu'au début, Steam a été prévu avant tout Steam Linux pour Ubuntu, mais non, c'est pas le cas. Ça ne sera pas basé.
Ils ont pas de raison en fait de se baser sur Ubuntu. Enfin, un Linux, c'est un Linux, donc. Tout ce qui peut tourner sur Ubuntu tournera sur autre chose. C'était juste qu'ils avaient prévu Ubuntu en général pour leur première plateforme de développement parce qu'il faut une plateforme unifiée. Donc prendre Ubuntu, c'est avoir quelque chose de répandu et d'uniforme pour faire les premiers tests. Ensuite, si on regarde les composants internes de Steam, on se rend compte qu'ils livrent pas mal de librairies eux-mêmes. Donc, il y a pas mal de composants qui sont indépendants du système en lui-même. Après, ben voilà, enfin les composants qu'on va retrouver dans SteamOS vont être à peu près les mêmes que sur le reste. Et puis après, on peut se dire que c'est pas une mauvaise chose qui se sépare un peu de Ubuntu, vu que Ubuntu est censé partir sur Mir, et que Mir, on sait pas trop ce que ça donne pour le jeu vidéo. Donc autant qu'il reste sur Xorg pendant un bon petit moment en attendant que Mir se stabilise.
C'est aussi une bonne raison, c'est de ne pas dépendre d'un fournisseur et d'une solution logicielle, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester sur Xorg le temps qu'ils veulent pour ensuite passer ou Wayland ou Mir ou autre chose s'ils en ont envie.
Voilà, enfin c'est y a pas vraiment, enfin dans ce cas présent, Steam est un distributeur. Donc il y a pas vraiment besoin de dépendre d'une autre distribution, surtout qu'ils ont pas vraiment besoin de faire du packaging de logiciels ou quoi que ce soit. La distribution, enfin le Linux, l'OS, est fait pour faire tourner Steam, rien d'autre. Les packages, on va dire que c'est les jeux. C'est tout ce dont on a besoin. Enfin, le gestionnaire de package, c'est Steam. Donc voilà, il y a juste besoin du kernel, d'un X et de Steam. Et c'est ce qu'ils vont faire, je pense.
Voilà. Après, par contre, pour effectivement l'utilisateur un peu averti, avoir quelque chose de connu comme Ubuntu derrière permettait de pouvoir installer, par exemple, XBMC par-dessus facilement et d'avoir une Steambox qui permette aussi de faire lecteur de fichiers multimédia.
Et ben, ces utilisateurs avertis, ils sont pas assez avertis parce qu'ils ont qu'à le compiler, XBMC.
Ah, c'est pas toujours très facile.
Ah, c'est pas toujours très facile, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils soient un peu plus avertis.
Ah, voilà. Donc, il va falloir qu'ils viennent chez Girol pour qu'on les avertisse un petit peu et qu'ils puissent compiler ça eux-mêmes.
Hello. Coucou. alors, t'as parlé à un moment de Mire parce que j'ai entendu de loin, j'étais en train d'essayer de, oui, de socialiser le collectif, tout ça, sur les interwebs. Du coup, donc, ce ne serait pas retenu et j'ai vu récemment que, donc, d'après les derniers benchmarks, alors, je ne sais pas qui a fait ça, mais Ubuntu, par exemple, d'autres, je pense que c'est pour l'heure actuelle la distribution qui a les meilleurs pilotes, on va dire. Ouais, peut-être pas les meilleurs, mais les plus récents, je pense. Donc, au niveau du benchmark, ça se rapproche d'un Windows 8 en termes de performance sur certains jeux vidéo.
Et sur certaines cartes graphiques, et notamment les milieux haut de gamme chez Nvidia. J'ai vu un article similaire sur Foronix.
Le problème. C'est intéressant parce que quand tu achètes une carte à 400 euros, t'as envie.
Le problème, c'est que ça, c'est valable uniquement pour les drivers libres, vu que Mir ne fonctionne pas avec les drivers propriétaires. Donc, les drivers propriétaires étant les seuls drivers qui puissent faire tourner des jeux correctement.
Exploiter toutes les technologies, en fait.
Voilà, qui supporte OpenGL 4, qui exploite pleinement les performances de la carte. On n'a aucune idée de qu'est-ce que donne Mir ou Wayland sur ces drivers, pour l'instant.
Alors, on va arrêter là un petit peu la partie logicielle, et justement, c'est une très bonne transition pour parler de la partie matérielle. Donc, d'après ce que l'on voit, la Steambox, vous trouverez des photos sur Internet, elle a l'air magnifique. Moi, ça me plaît pas mal, truc très carré.
Je suis pas sûr que ce soit le design définitif, mais en tout cas, ce qui est proposé est déjà pas mal.
Est déjà vraiment super sympa. C'est une machine quand même de guerre, hein. C'est un core i7. Je sais pas s'il est quad, j'arrive pas à savoir s'il est quad core ou dual core, mais.
Alors, il y a plusieurs variantes. Il y a des versions avec i3, i5 et i7. Je pense que c'est toujours des dual core, des quad core. Enfin, non, les i3, c'est que des dual.
Ouais.
Donc, ça va être des quads et des, pour les i5 et le i7.
Et un dual pour
qui
le...
sont équipés de 16 Go de RAM, je crois.
Oui.
3 Go de DDR3 graphique.
Et la plus pour ceux qui, disons pour le prototype accessible à la presse, c'était une GeForce, une GTX 780, donc quand même. Et tout ça dans un espace extrêmement réduit et avec un système de ventilation relativement bien pensé pour évacuer l'air, notamment un système de refroidissement l'air. Qui sert à refroidir la carte graphique n'est jamais en contact avec l'air qui sert à refroidir le processeur, et donc deux entrées et sorties d'air pour que justement l'air à l'intérieur de la machine que la carte graphique ne réchauffe pas le processeur et inversement.
Oui. Dans un espace très réduit, donc ils ont mis la photo que j'ai vue, c'était une GeForce Titan, donc ce qui représente le très très haut de gamme de chez Nvidia, et apparemment ils arrivent à faire tourner ça sans problème dans un boîtier assez
petit, de la taille d'un boîtier Minitex à peu près.
Voilà, qui est à peine plus gros qu'une Xbox, en fait.
Voilà.
Et, du coup, est-ce qu'on... Enfin, la Steambox, du coup, est au même niveau de concurrence, on va dire, que la PS4 ou la Xbox One?
Mais en fait, vu le matériel, en y allant par quatre chemins, elle les bouffe littéralement, quoi. Elle les écrase.
Oui, niveau performance, c'est...
Elle est détruite.
Alors après, ce qui va faire la différence, c'est sûrement la bibliothèque de jeux au lancement de la console.
C'est voilà, parce qu'effectivement une bête de course sans jeu, ça ne vaut rien du tout.
Mais du coup, qu'est-ce qui va pouvoir être jouable sur une Steambox? Il y a tous les jeux de PC ou...
Metro 2033 par exemple.
Metro, enfin tous les on a les 250 à peu près jeux qui sont déjà sur Steam Linux. Et en plus, il y aura une fonctionnalité qui permettra de streamer les jeux depuis Windows ou Mac sur la Steambox.
Donc voilà. Au niveau matériel, la Steambox, c'est aussi la manette.
La manette, oui, qui est apparemment quelque chose de totalement nouveau, puisqu'ils ont voulu faire une manette qui permettait de jouer à tous les jeux qui sont présents sur Steam.
Dont les FPS.
RTS. Les RTS, enfin tous les jeux qui se jouent avec la souris, au clavier, avec n'importe quoi, qui puissent se jouer avec cette manette. Donc on voit qu'il y a deux...
Deux touchpads, en fait, circulaires.
Voilà, des sortes de touchpads qui sont sensibles, enfin qui donnent un feedback physique, je pense, plus un écran tactile au milieu.
Et des boutons programmables.
Voilà, enfin, sur le touchpad, ouais.
Voilà, y a un toucher apparemment relativement soft. Les retours presse que l'on en fait, c'est quelque chose de très agréable à avoir en main et déroutant, mais voilà. Mais apparemment pas bon pour Team Fortress encore. Enfin, pas pour gagner.
Mais de ce que j'ai vu, c'est une architecture qui est assez ouverte, donc qui sera hackable et les contrôles vont être soumis au vote du public. En fait. La communauté pourra proposer ses meilleurs contrôles pour chaque jeu. En fait.
D'accord. Donc, est-ce qu'on est justement dans l'avènement, comme tu disais, ouvert, hackable, public? Est-ce qu'on est dans l'avènement d'une grosse société qui a enfin compris comment...
Où était son intérêt?
C'est un peu pour ça qu'ils ont démarré
à contre-courant. Alors, où était son intérêt? Et justement, où il était à contre-courant de tout ce qui se fait? Parce que, à l'heure, justement, où moi, je me pose la question des consoles next-gen. J'ai toujours eu des consoles pour jouer. Là, maintenant, on nous demande d'acheter des Xbox qui nécessitent pratiquement que la caméra et le micro restent allumés en permanence. On nous demande d'acheter des Sony ou qui, à peu près pareil. On voit là récemment des conditions d'utilisation, mais ahurissantes, où Sony, par exemple, se donne le droit tout seul d'enregistrer les communications que vous avez sur leur réseau PSN, c'est-à-dire à votre insu, et même les chats vocaux que vous faites entre joueurs. Donc, des sociétés qui...
Franchement, quid de l'intérêt d'enregistrer des gars qui insultent les mamans des autres toute la journée, enfin, je veux dire, franchement.
Mais surtout, voilà, c'est la vie privée des sociétés qui essayent de faire passer en force des DRM ou des obligations de connexion Internet, d'empêcher de revendre ces jeux vidéo d'occasion. Et au final, on a ici une alternative qui sûrement sera bien plus onéreuse que les autres, il ne faut pas se le cacher, vu le matériel proposé, mais qui tournera sous Linux, un système d'exploitation libre, des consoles qui seront évolutives, avec une vraie volonté d'intégrer une communauté de hackers.
Mais alors, dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'il y aura des gens qui, justement, dans cette communauté de hackers, pourront proposer leur propre OS pour ce matériel-là?
Bah déjà, il y a les constructeurs qui
vont... De
la même
manière qu'un CyanogenMod, que des ROM modifiés pour
bon, personnellement, téléphones. Si c'est un Linux, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible.
Bah, de toute façon, il y a toutes les personnes qui vont construire une Steambox à partir de n'importe quel Linux, ils vont mettre Steam dessus et sur n'importe quel PC, en démarrant Steam directement à l'allumage. Et puis, Valve n'a pas vraiment prévu de construire des Steambox à long terme. Ils font un premier prototype, et après, ça va être des constructeurs qui vont faire eux-mêmes leur Steambox avec des spécifications minimales, mais ce qui va être totalement libre, en fait. Ça sera un PC qui va répondre à certains critères. Et à partir de ça, tout le monde pourra construire sa Steambox.
Est-ce qu'au final, c'est pas refaire ce qu'a fait IBM avec le PC, donc l'appliquer aux consoles de jeux?
Est-ce qu'au final, c'est pas la fin des langages des jeux vidéo tels qu'ils étaient adaptés pour les consoles, on va dire, et de toutes ces choses-là? Enfin, je sais pas si. Enfin, bon, remarque, c'était peut-être plus vrai pour les consoles des années 90 et début 2000. Où vraiment, les jeux étaient spécifiquement développés pour console et les adaptations PC étaient rarement.
On a encore beaucoup ce cas-là et de toute façon, les consoles vont pas être.
Justement aussi, les jeux ne seront plus limités par des matériels spécifiques d'une console ou la PS3, ou la PS2, le nombre d'années pendant lesquelles les développeurs ont dû maintenir un niveau assez bas finalement dans certains jeux pour se restreindre aux capacités d'une console. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'évolution avec ça ou...
Après, il faut voir qu'à côté, il restera toujours la PS4, la Xbox One. Elles ne vont pas disparaître. Les éditeurs vont continuer à développer des jeux pour ces consoles. Donc, si ça bloque à certains moments, c'est pas dit que ça résolve tout. Mais après, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas... Je me demande à quel moment il y aura une nouvelle une Steambox, en fait. Vu que le matériel est évolutif, ça va progresser au fil du temps, d'année en année. Et je pense pas qu'il y ait vraiment de nouveaux modèles qui sortira. Quoi.
Non, par contre, on peut imaginer tout à fait des spécifications comme SteamOS fonctionnant sur Steambox. Votre système sera quand même capable de dire non, ce jeu, tu peux pas l'installer parce que ta Steambox est trop.
Comme le jeu sur PC depuis tout le temps. Enfin, il y a des configurations minimales à respecter.
Oui. Sauf que les configurations, tu peux toujours acheter. Moi, sur Steam, je l'ai fait. Tu peux acheter des jeux et n'ayant pas la configuration minimum. Et là, il pourrait t'avertir un peu plus.
Après, on peut acheter n'importe quel jeu sur Steam. Hein, donc, je peux acheter des jeux Steam Steam Windows, alors que j'ai pas Windows. Enfin, on peut. Steam ne te force, enfin, ne te bloque pas pour acheter des choses et oui. Je le comprends, quoi.
Non, tout à fait.
Après, pour les lancer, c'est autre chose.
Tu peux peut-être ruser en essayant de l'acheter pour un ami, mais en l'envoyant à ton adresse email.
Ah non, mais ça, de toute façon, il te bloque pas. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça risquerait justement de poser un problème, cette évolution, pour justement quelqu'un qui est habitué à avoir une Xbox 360. Il achète sa console, il va acheter des jeux pour sa Xbox, il n'a pas besoin de se prendre la tête. Si Steam empiète sur le monde des consoles de jeux et qu'il propose quelque chose d'évolutif, quelqu'un va acheter un jeu pour sa Steambox et en fait, une fois qu'il aura installé, on va lui dire « Ah ben non, le jeu il se lance pas parce que de toute façon, tu n'as pas le minimum requis pour pouvoir jouer. »
Oui, bah, de toute façon, je pense qu'il y aura une configuration minimale pour la Steambox qui permettra au moins de faire tourner tous les jeux qui sont fournis actuellement. Après, pour les jeux à venir dans le futur, je ne sais pas comment ça va se dérouler. C'est à voir. Enfin, si par exemple les Steambox bas de gamme arrivent avec une GeForce 6600 ou 660, je crois, je pense qu'elles vont pas durer très longtemps niveau. Enfin, pour les jeux à venir, ça risque d'être assez limité vite fait. Quoi.
D'accord.
Donc on verra très vite ce que ça va donner.
Bon. On va continuer dans l'actualité jeux vidéo et pour parler des sorties. Mathieu, tu as noté deux jeux là.
Alors deux jeux qui sont sortis récemment, on va dire des FPS commerciaux, on appelle ça des jeux triple A en fait, donc des gros jeux qui sont très bien faits. Donc on a premièrement Painkiller, Hell and Damnation, qui est à peu près un remake, enfin entre les remakes et la suite du premier Painkiller qui est sorti en 2004, je crois, et qui est...
Le même Painkiller qui avait été annoncé par 3D Realms un peu après la sortie de Shadow Warrior, je crois, ou...
Ça, je sais pas. Enfin, parce que Shadow Warrior, c'est vraiment beaucoup plus vieux, en fait.
Oui, mais c'est ça, mais il me semble qu'ils avaient annoncé un Painkiller il y a très très longtemps de ça, et qu'il était sorti... bref, passons.
Voilà. Donc Painkiller, qui est un FPS très très rapide au gameplay, qui ressemble un peu, enfin qui se place un peu entre Serious Sam et Quake 3. Très rapide, très bourrin, enfin très agréable à jouer, quoi. Ensuite, on a Metro 2033, qui techniquement et enfin graphiquement très très joli, enfin vraiment au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Niveau gameplay, ça ressemble un peu à Half-Life 2. Ça permet de faire patienter pour Half-Life 3. Depuis le temps qu'on attend ça, ben voilà, on a quelque chose à se mettre sous la dent avec Metro. Enfin, non, c'est pas 2033, j'ai dit 2033, mais en fait, c'est Last Light. Donc, Metro Last Light, qui va être fourni avec les premières versions de la Steambox, en fait, avec la bêta.
D'accord. Sachant que d'après ce que j'ai vu, ça se Metro 2000, enfin Last Light, ça se passe dans le métro justement.
Ça se passe dans le métro à Moscou après un cataclysme nucléaire. Enfin, c'est avec des monstres qui nous attaquent. Enfin,
ce qu'on aime.
avec des méchants communistes et des méchants nazis aussi.
D'accord. On peut aussi parler de deux choses, la première chose c'est l'initiative du Humble Bundle qui sort le Humble Store avec des jeux que l'on peut acheter à l'unité tout en faisant profiter l'Electronic Frontier Foundation et le Shield Play Charity dedans, enfin le même chose que le Humble Bundle, que le Humble Week Bundle, et voilà, c'est sauf qu'on peut acheter par jour, il y a des jeux qui vont changer. On va pouvoir acheter un jeu d'avant, Don't Starve pour Linux, qui est relativement intéressant. Et voilà, des jeux pour macOS, pour Linux et pour Windows, avec des jeux qui sont parfois compatibles qu'avec une ou deux plateformes.
Voilà. Et même, il y a plus de jeux pour Linux que pour Mac.
Oui, oui, mais je pense que c'est justement le tournant avec Steam pour Linux. De plus en plus de gens développent pour Linux et pas pour Mac. On a aussi la sortie de jeux indépendants. Voilà, moi, j'ai craqué pour Gone Home, qui est plus une histoire interactive vraiment qu'un jeu vidéo. Ne vous attendez pas à tuer plein de vilains méchants pas beaux, même si effectivement on se demande ce qui se passe. Voilà, si vous aimez les jeux qui sortent de l'ordinaire avec les histoires, c'est vraiment un très très bon jeu. Pareil, disponible sur Steam et nativement sous Linux. Il se base sur le moteur Unity. C'est, voilà, comme tu disais hors antenne tout à l'heure, c'est plus un jeu d'exploration. Moi, je vous le conseille parce que même s'il se finit rapidement, c'est une expérience vraiment sympathique à vivre.
Ouais. En parlant d'histoire, moi, il y a quelque chose que j'attends beaucoup, qui est à l'état de rumeur aujourd'hui, mais Telltale Games, que je considère un peu comme les successeurs à LucasArts, pourraient se mettre à porter leur jeu sur Linux. Donc sur SteamOS, Linux, tout ça.
Et quel jeu ?
Alors, ils avaient parlé de Walking Dead, que j'ai joué il n'y a pas longtemps, qui est très bien. Wolf Beyond. Je ne sais plus le nom, c'est un jeu de loup-garou, enfin, pareil, un point and click qui est dans l'esprit comics un peu, qui a l'air assez bien. Quoi. Mais après, voilà, s'ils commencent à porter leur jeu, je pense qu'ils vont se faire. Ils vont continuer.
C'est The Wolf Among Us.
Ouais, The Wolf Among Us.
Merci Gaël.
Donc cela, enfin, ça fait partie de mes éditeurs de jeux préférés. Enfin, voilà, enfin, entre Double Fine et Telltale Games, je considère que c'est un peu les deux successeurs de LucasArts. Et j'attends avec impatience qu'ils arrivent sur Linux.
Tiens, en parlant de LucasArts, tout à l'heure j'ai joué sur, je sais pas si vous avez vu passer l'info, il y a un gars qui a refait une sorte d'émulateur, enfin qui a repris un émulateur existant de PC DOS et de Macintosh de l'époque, et dedans on pouvait jouer à Monkey Island de LucasArts notamment. On voyait dans le générique, évidemment ça va à 2 à l'heure, hein, c'est pas très pratique à jouer et tout, mais ça avait l'air rigolo.
Bon, voilà pour l'actu jeux vidéo, mais de toute façon on sait pertinemment qu'on reparlera de jeux vidéo déjà le mois prochain. Malheureusement pour nous, là, on a dépassé le temps. On n'aura pas le temps d'aborder UX et projets open source, mais on se le garde au chaud pour la prochaine fois.
Ça a étudié, ça.
Ça a étudié. Ouais. Voilà.
Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet.
Voilà. Et on parlera, si on va juste finir quand même par la hacking party 0. Mais on va peut-être faire couper le flux et le reprendre directement. On vous abandonne pour deux petites secondes histoire de couper le flux et le reprendre.
La radio libre.
Microphone check. 1, 2, 1, 2.
C'est ça a repris, donc vous êtes de retour avec le fond musical Gaël, alias Vinyl Ourson, et Mathieu, et nous allons parler de la Hacking Party Zero, un événement qui va se tenir à Bordeaux d'ici peu. Alors vas-y Mathieu, c'est à toi.
Alors, bon, ben, pour l'instant rien d'officiel, parce que c'est encore à l'état de projet, mais donc c'était un événement que j'ai eu l'idée il y a quelques mois, qui est un peu... qui permettrait de regrouper plusieurs développeurs sur des projets libres donnés. Et le but serait de faire des contributions à ces projets, les faire évoluer, réparer des bugs, apporter de nouvelles fonctionnalités. Et ça, ce serait sur n'importe quel projet. C'est ouvert à tout. C'est sur n'importe quel type de contribution aussi. Ça peut être de la doc, du design, du code. Pourvu que ce soit utile aux gens qui le font. C'est un peu la seule restriction, c'est ne faites pas quelque chose qui ne vous intéresse pas. Faites quelque chose dont vous serez content le lendemain, enfin que vous pourrez utiliser le soir même pour faire évoluer des logiciels qu'on aime, qu'on utilise dans le bon sens en fait. Ou des fois des logiciels qu'on n'aime pas, mais qu'on aimerait aimer parce que...
Mais que... Comme par exemple le design d'OpenStreetMap.
Voilà, par exemple,
OpenStreetMap. On fait un peu teasing pour.
Alors, si ça se déroule bien, j'aimerais peut-être axer la Hacking Party numéro 1 sur OpenStreetMap. Ce serait une idée, ça.
Hacking Party 0, tu veux dire ?
La 0, ça serait celle à venir en janvier.
D'accord.
Et la 1, ça serait celle d'après.
Celle d'après. Bon, de toute façon, tout ça, tu nous en reparleras à la prochaine radio.
Normalement, le mois prochain, il y aura beaucoup plus de détails, peut-être une date et peut-être un petit programme.
Et un lieu.
Alors, le lieu est déjà choisi, ça se passe au Node, donc un espace de coworking à Bordeaux.
Pas très loin de Girolles, d'ailleurs.
Qui est pas très loin d'ici, en plein centre. Et qui sera sûrement un samedi pendant le mois de janvier.
D'accord. Donc, de toute façon, on donne rendez-vous à nos auditeurs le premier mardi du mois de décembre pour qu'ils puissent écouter en direct les annonces plus précises à ce sujet.
Normalement, plus de détails, ouais.
Bon, Gaël est en train de se rouler sa clope, ça veut dire que ça y est, c'est la fin, on va quitter. Bon, on vous souhaite à tous une excellente soirée.
Et on vous rappelle que dans deux week-ends maintenant...
Le 23 novembre.
Vous pourrez nous rejoindre, pour ceux qui habitent dans la région bordelaise, à la Girol Party, qui dure toute la journée à partir de 9h30. Ça se passe donc ici, dans les locaux du centre d'animation Saint-Pierre, 4 rue du Mulet. Mais vous pouvez trouver tous les détails pour venir sur le site www.girol.org. Voilà.
Sinon, vous cherchez Collectif Girol sur les réseaux sociaux, des interwebs, et vous nous trouverez. Sauf sur OpenStreetMap, parce qu'apparemment, ça marche pas.
Si, ça marche. C'est juste qu'on peut pas le voir.
On est invisible sur OpenStreetMap. Allez, bonne soirée à tous.
Bye.